Bonsoir Claire Servageant.
Bonsoir Charline, à lundi et d'ici là, bon week-end. C'est parti pour le 18-20 du vendredi. Ce soir, suite de notre semaine spéciale consacrée aux élections européennes à un mois tout juste du scrutin. Ce soir, l'Europe est-elle une chance pour l'environnement ? Pesticides, pollution, déchets, OGM, on passera tout en revue avec nos invités. On s'interrogera aussi plus largement sur la politique de l'Union, sa logique de libre concurrence et ses conséquences en matière environnementale. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Sachez que le téléphone sonne commencera plus tôt. Ce soir, vous aurez la parole dès 18h40. Mais tout de suite, le journal de 18h. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous. Une petite baisse du chômage en France. Il recule de 0,7% au premier trimestre. Pourrons-nous atteindre le plein emploi dans 6 ans, comme l'a souhaité Emmanuel Macron hier en conférence de presse? Nous reviendrons aussi sur un autre engagement, celui d'avoir des retraites à 1000 euros minimum. Ce n'est plus possible. Le maire de Saint-Denis réagit après une expédition punitive qui a conduit un adolescent de 15 ans à l'hôpital dans un état très grave. Il s'inquiète des dérives, des rivalités entre quartiers. Encore plus fort que la taupe de John Le Carré, enquête interne au sein du gouvernement britannique pour savoir qui a parlé à la presse, qui a révélé que Theresa May autorisait Huawei à développer la 5G au Royaume-Uni. Il y a 25 ans, les premières élections libres en Afrique du Sud. Retour à Soweto dans ce journal. Et puis c'est bientôt le week-end. Notre prescription culturelle est un documentaire sur la Bulgarie. Une jeune femme s'intéresse au passé de ses parents à l'époque du communisme. Et le temps, week-end frais et agité, nous dira Elodie Calac de Météo France. Le plein emploi en France en 2025, c'est l'objectif affiché hier par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Le chef de l'État se donne le temps, car si le chômage baisse, il baisse doucement. Moins 0,7% de chômeurs entre début janvier et fin mars en France métropolitaine. Cela fait une baisse de 1,5% sur un an. Les chiffres trimestriels du gouvernement, réputés plus parlants que les chiffres mensuels, ont été publiés à midi. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Alors, ce plein emploi dans 6 ans, c'est jouable?
Eh bien, au rythme où vont les choses, c'est loin d'être gagné. Comme vous dites, le chômage baisse, mais quand même effectivement assez lentement. D'abord, quand on parle de plein emploi, on parle de quoi? On parle d'un chômage autour de 4,5-5%. Or, aujourd'hui, si l'on tient compte des chiffres de l'INSEE, on est à 8,5%. Ça vous donne une idée du chemin à parcourir, un chemin tortueux, selon Éric Heyer, économiste à l'OFCE.
Aujourd'hui, 800 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail et 650 000 seniors partent à la retraite. Donc, certes, à court terme, ça complexifie la baisse du chômage.
Emmanuel Macron a donc beau y croire, même si les chiffres de Pôle emploi ne sont pas mauvais à l'année. Aujourd'hui, le chômage baisse à hauteur de 0,1 point par semestre, c'est à peu près la moyenne. À ce compte-là, l'objectif plein emploi, ce serait plus d'ici 20 ans. Et ça, sans compter l'incitation lancée hier soir aux Français pour qu'ils travaillent plus longtemps.
Il est certain que si on devait rallonger l'âge de départ à la retraite ou le nombre d'années de cotisation pour partir au taux plein, ça rendrait encore plus compliqué l'objectif de 5% de chômage à l'horizon 2025.
Bref, vous l'aurez compris, l'équation n'est pas simple, le chantier encore loin d'être terminé.
Merci Maxime Debs. Actuellement, 3 649 000 personnes sont officiellement au chômage en France métropolitaine.
Autre annonce d'Emmanuel Macron hier soir, pas de retraite en dessous de 1000 euros.
Et ce matin, la ministre des Solidarités Agnès Buzyn a donné des précisions. Il s'agira de 1000 euros au moins pour ceux qui ont eu une carrière complète. Promesse qui devrait être mise en œuvre dès l'année prochaine. Laurent Kramer, le gouvernement pouvait difficilement faire autrement.
Oui, car cette retraite plancher que l'on appelle le minimum contributif peut descendre aujourd'hui en France à seulement 700 euros. Le dispositif permet également de relever le niveau des petites retraites. Problème, le niveau actuel de ces petites retraites est en dessous à quelques dizaines d'euros seulement du minimum vieillesse. Ce salarié au SMIC qui voit sa retraite complétée aujourd'hui à 945 euros peut constater que le minimum vieillesse sera en 2020 à 905 euros, à 40 euros seulement de sa retraite. En pleine réforme des retraites et de réflexion sur les minima sociaux, le gouvernement ne pouvait laisser une si mince différence entre une retraite à taux plein et un minimum social pour tous. Le constat était déjà dressé par les équipes de Jean-Paul Delevoye. Les retraites de salariés au SMIC sont aujourd'hui beaucoup trop faibles et au niveau en réalité des minima sociaux. Comment encourager le travail dans ces conditions et la confiance dans une dans un futur système des retraites? Le gouvernement annonce donc ce relèvement pour les salariés avec une retraite planchée portée à 1 000 euros.
Un salarié licencié de la papeterie Arjo Wiggins s'est suicidé quelques jours après avoir reçu sa lettre de licenciement. Il travaillait depuis 33 ans dans l'usine de Bessé-sur-Braye dans la Sarthe. Au total, près de 800 personnes ont perdu leur emploi dans les sites Arjo Wiggins. À l'inverse, la justice valide le plan de reprise des fonderies du Poitou et de Saint-Jean Industrie à Lu par une entreprise britannique. Cela permettra de conserver 600 des 800 emplois qui étaient menacés.
Il est 18h05 sur France Inter, la suite du journal Frédéric Mettezo. On passe Frédéric à l'appel au calme lancé par le maire de Saint-Denis.
Un jeune homme de 15 ans est hospitalisé dans un état critique après une très violente agression hier soir avec d'autres adolescents encadrés par des animateurs. Ils sortaient du cinéma quand une quinzaine de personnes les ont attaqués. Coups de pied, coups de poing et bombes lacrymogènes. Aucun des agresseurs n'a été interpellé pour l'instant. Pour Laurent Russier, le maire communiste de Saint-Denis, c'en est trop.
Un cas de plus, un cas de trop de violences qui sont inacceptables. Et donc, ce n'est plus possible parce que ce ne sont pas des cas isolés. Ce ne sont pas des cas, y compris, qui se limitent à Saint-Denis. C'est une tendance de fond. Ces guerres entre quartiers ou souvent qui partent de causes parfois futiles. Je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. On a déjà eu des décès. Là, on est passé tout proche. Et encore, la personne n'est pas mise hors de danger. Moi, c'est plutôt un cri à la fois de colère et d'alarme que j'ai envie de pousser. Parce qu'aujourd'hui, vous interrogez le maire de Saint-Denis. Si ça se trouve, demain, ça sera le maire de Clichy. Après-demain, le maire de Livry-Gargan. Enfin, à un moment ou un autre, c'est plus tenable. Si on n'est pas capable, dans la France du XXIe siècle, de se mettre tous ensemble pour trouver des solutions et renverser une tendance où une partie de notre jeunesse est en train de partir à la dérive, qu'ils en soient parfois malheureusement eux-mêmes les victimes, ça n'augure pas grand-chose de bon pour la suite.
Des propos recueillis par Ajera Mohamed de France Bleu. Des soucis d'eau courante à Dunkerque ce soir et dans les villes alentours, une canalisation a été percée lors de travaux. La préfecture demande aux habitants du Dunkerquois de ne pas consommer l'eau du robinet en attendant le résultat d'analyse et d'utiliser l'eau au strict minimum. À l'étranger, comme si le Brexit ne suffisait pas, le gouvernement britannique doit affronter une autre tempête politico-économico-diplomatico-médiatique. Mardi soir, le Télégraphe affirmait que Theresa May allait ouvrir le marché de la 5G au Royaume-Uni à Huawei, le groupe chinois soupçonné d'espionnage par les Américains. Mais sa décision, annoncée lors d'une réunion ministérielle, aurait encore dû rester confidentielle. Alors, qui est la source? Qui a parlé? Antoine Gignot, une enquête interne est en cours sur fond de crise politique.
Leur portrait s'étale dans la presse comme les cartes d'un jeu de Cluedo. 5 ministres, 5 candidats potentiels à la succession de Theresa May, 5 personnalités politiques de premier plan qui clament leur innocence et parmi eux, probablement un menteur. Car ils n'étaient pas nombreux autour de la table lorsque la décision a été prise d'autoriser Huawei, le constructeur chinois, à participer au développement de la 5G au Royaume-Uni. Il y avait quelques hauts fonctionnaires, les responsables des services de sécurité et les politiques pour savoir qui a trahi la confidentialité des échanges. Une enquête interne menée par le responsable de la fonction publique a été ouverte, mais tous les regards se tournent vers les ministres et leurs proches collaborateurs. Aux affaires étrangères, Jeremy Hunt parle d'affaires épouvantables, même discours à la défense, au ministère de l'Intérieur, aux finances, discours peu convaincant. Pourtant, les conservateurs anti-Brexit qui s'opposent au gouvernement profitent de l'occasion pour réclamer le départ du fautif et Michael Fallon, ancien ministre de la Défense, demande l'ouverture d'une enquête de police. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
210 militaires turcs emprisonnés, des hauts gradés pour la plupart. Le gouvernement les soupçonne d'avoir des liens avec le prédicateur Fethullah Gulen. Il est devenu l'ennemi juré du président Erdogan. Il est exilé aux États-Unis. Erdogan l'accuse d'avoir influencé le putsch manqué il y a bientôt 3 ans en Turquie. Depuis, plus de 77 000 personnes ont été incarcérées. 150 000 fonctionnaires et militaires ont été soit suspendus, soit licenciés. Demain, l'Afrique du Sud fête son quart de siècle de démocratie. Il y a 25 ans, le 27 avril 1994, se tenaient les premières élections libres après la fin de l'apartheid, avec au bout du processus la victoire de l'ANC et l'élection de Nelson Mandela. À Soweto, le ghetto noir de Johannesburg, les plus anciens se souviennent des années difficiles de l'apartheid, mais en 25 ans, ils ont vu leur quartier évoluer très différemment selon leurs conditions sociales. Reportage de Claire Bargelès.
Solide Sessané, 78 ans, nous accueille chez lui. Une maison en dur avec plusieurs pièces dont il n'aurait pas pu rêver dans son enfance.
Voilà, c'est chez moi. Tout ça, c'est notre fierté. À l'époque, on n'avait pas le droit de vivre dans le confort. On était ici pour être utilisés. Puis lorsqu'on n'avait plus besoin de nous, on retournait dans nos villages.
Mais en 1976, le township se révolte. Des milliers de jeunes descendent dans la rue et la police ouvre le feu. Les jours suivants, le reste du pays s'embrase, faisant des centaines de morts. Zonke Mangagné avait alors 18 ans.
C'était la première fois que l'on voyait ces gros véhicules de soldats. Une époque effrayante. Cela a bien changé. C'est devenu un endroit agréable et nous avons pu bénéficier de ces changements.
Soweto s'est en effet transformé avec ses centres commerciaux et ses cars de touristes. Mais tous n'ont pas vu leurs rêves exaucés. Evelyne Dladamba approche la soixantaine et elle vit toujours dans une cabane en tôle.
Cette pièce, c'est la cuisine, aussi la chambre. Si je veux me laver, c'est ici, devant mes enfants qui voient tout. Rien n'a changé. À l'époque, nous avions espoir lorsque Mandela a été libéré, mais rien ne s'est arrangé.
Plus d'un million d'habitants vivent désormais à Soweto et tous n'ont pas vu les promesses du passé se réaliser.
Un reportage de Claire Bargelès, la correspondante de France Inter en Afrique du Sud. C'est aujourd'hui la journée internationale de visibilité lesbienne avec un rassemblement à partir de 19h, place de la République à Paris. Très peu présente dans les médias ou dans les fictions télévisées, les femmes homosexuelles subissent parfois des discriminations dans leur vie quotidienne et même chez le médecin. Enquête de Clémentine Sabrier.
Il y a 5 ans, Audrey prend son premier rendez-vous chez une gynécologue. Elle lui reproche d'avoir déjà perdu sa virginité à 16 ans. Lorsqu'Audrey lui confie son attirance pour les femmes, la médecin lui hurle dessus.
Les relations entre femmes, ça sert à rien. Vous ne pourrez de toute façon jamais avoir d'enfants. Tout ça, c'est contre nature. Et puis de toute façon, faut pas donner votre corps à n'importe qui.
Audrey mettra des années avant de donner sa confiance à son nouveau gynécologue. Ce type de discrimination vient en partie du manque de formation du personnel médical. C'est ce qu'affirme Marielle Wattelet, médecin de santé publique et cofondatrice de la chaîne YouTube « Viens voir le docteur ».
En fait, il y a zéro science humaine en formation, ou très peu, dans le parcours des soignants. Ce qui fait qu'on a peu de remise en question de la pratique et il n'y a pas de sensibilisation aux particularités de santé des minorités.
Les lesbiennes sont donc régulièrement mal conseillées en termes de santé, notamment sur leur santé sexuelle, par manque d'informations. 3/4 d'entre elles ne se protègent pas lors de rapports sexuels.
Il dirigeait le Secours populaire depuis 1955. Julien Lauprêtre est mort à 93 ans après une mauvaise chute. Ce fils de cheminot communiste et syndicaliste était lui-même très engagé au PCF. Il avait été résistant, il avait partagé sa cellule avec le leader du réseau Manoukian. Il avait rejoint le Secours populaire en 1954 après l'appel de l'abbé Pierre. Nous y reviendrons dans le journal de 19h sur France Inter et nous entendrons la voix de cet homme d'engagement que vous aviez reçu ici même, Claire.
Effectivement, c'est lui qui avait inauguré l'émission Une semaine en France en 2016. C'est un homme extraordinaire qui se battait pour l'essentiel, pour tout le monde, contre la pauvreté. Et puis, pour lui, ça passait par le droit aux vacances pour tous, pour le droit à la culture pour tous. Voilà, ça nous amène à la prescription culturelle du vendredi soir, Frédéric.
Oui, avec un documentaire sorti cette semaine au cinéma qui s'appelle Je vois rouge, de la jeune réalisatrice Bojina Panayotova. Après 25 années passées en France, elle a décidé de retourner dans son pays natal, la Bulgarie, pour mieux connaître et mieux comprendre la vie de ses parents avant la chute du communisme. Corinne Pellissier, c'est un documentaire troublant et fascinant.
Mon enfance communiste enchantée.
Les parents de Bojina ont-ils collaboré avec les services secrets? Étaient-ils surveillés? Faisaient-ils partie de la nomenclatura? 20 ans après la chute du mur, la jeune femme cherche à comprendre. Mais puisque personne dans sa famille n'évoque jamais la question, elle mènera très bien sa propre enquête.
C'est flippant, enfin, je... C'est la Stasi bulgare quand même.
Direction donc Sofia en Bulgarie, où se trouve encore aujourd'hui une partie de sa famille et les fameuses archives de la Stasi, désormais accessibles à tous. Armée de son téléphone portable, la cinéaste filmera tout pendant des semaines pour nous livrer le résultat de cette enquête.
Réseau. Secret. Agent secret.
Tout le fantasme qu'on peut avoir de ça, et qui là en fait est réel quoi.
Oligarque.
Une sorte d'ovni entrecoupé d'images d'archives, de témoignages, de photos de famille et de conversations enregistrées par Skype avec son père, sa mère, son petit ami. Aucune pudeur, aucun filtre, simplement les faits, beaucoup de disputes et une vérité pas toujours bonne à dire sur les crimes du communisme. Un témoignage fort sur une période encore douloureuse et taboue au sein de la société bulgare, que l'on dévore comme un thriller. La jeune femme dans son périple n'a pas hésité à manipuler et espionner ses parents, arrachant certaines des scènes à la caméra cachée pour un résultat troublant et fascinant.
Je vois rouge, c'est signé Bojina Panoyotova. C'était la prescription de France Inter ce soir, prescription culturelle.
Merci beaucoup pour ce journal, Frédéric Mettezo.